Bon, ce qui ne va pas avec la globalisation, je crois que hier, dans le débat entre Davos et Porto Alegre, les messieurs partisans de la globalisation qui étaient à Davos ont eux-mêmes reconnu que la globalisation, c'est les inégalités. George Soros, de sa propre bouche, a dit qu'au cours des 10 à 15 dernières années, les inégalités dans le monde se sont accrues. Monsieur Malcolm Brown, l'administrateur du PNUD, lui-même a dit que jusqu'à présent, la globalisation n'a pas un visage humain. Donc eux-mêmes, ils reconnaissent que la globalisation, c'est les inégalités entre les pays du Sud et les pays du Nord, particulièrement entre l'Afrique et les pays du Nord. Le problème de la dette constitue aujourd'hui une hémorragie financière pour les pays du Sud. Et ça, c'est lié à la globalisation. Parce que quand on libéralise tout, le commerce, les taux d'intérêt, les taux de change, ça veut dire que les plus puissants profitent sur les moins puissants, c'est-à-dire sur les plus faibles. Et c'est ça qui a accéléré non seulement la crise de la dette, mais également le transfert de richesses des pays du Sud vers les pays du Nord. Ça, c'est inacceptable. Quant aux inégalités, le PNUD lui-même, dans ses différentes publications, et même la Banque mondiale, elle-même dit que au cours des dernières années, il y a 1,3 milliard de personnes qui vivent avec moins d'un dollar par jour. 1,3 milliard d'êtres humains qui n'ont presque rien. Et ça, c'est à cause de la globalisation. Parce que quand on dit que le marché doit décider de tout, ça veut dire que ceux qui ont les moyens de profiter, profitent encore plus. Ceux qui n'en ont pas les moyens sont laissés sur la chaussée. Et c'est ça la globalisation. Et donc pour nous, c'est inacceptable à tous les points de vue, d'un point de vue moral, parce que nous ne pensons pas que le marché doive décider de la vie de centaines de millions de personnes. D'un point de vue économique, parce que nous voyons qu'aujourd'hui, nos produits ne se vendent pas comme il faut, parce qu'on dit que oui, vous n'êtes pas compétitif. Qu'est-ce qu'être compétitif? On sait que la compétitivité dépend de beaucoup de facteurs, notamment des subventions que les pays développés donnent à leurs industries, alors que nous, on nous demande de supprimer toute subvention. Et d'un point de vue social, je pense que les inégalités que j'ai exposées et qu'eux-mêmes ont reconnues font que, sous tous ces angles, nous ne pouvons pas accepter la globalisation.
Alors, quels sont les remèdes?
Bon, les remèdes, je pense qu'il y a plusieurs sortes de remèdes. D'abord, au niveau international, au niveau des Nations Unies, au niveau des États, que les gens reconnaissent la nécessité de mettre de l'ordre dans la circulation des capitaux. Parce que la spéculation financière a été une catastrophe pour le monde. L'Asie en a fait les frais, la Russie, le Brésil, le pays dans lequel nous nous situons, et bien sûr les autres pays du Sud en ont fait les frais. Tant que cette spéculation financière continue, tant qu'on laisse les capitaux entrer et sortir, comme nous allons au marché ou nous entrons dans un restaurant, etc., je pense que ça va mener le monde à la catastrophe. Donc il y a un besoin, non seulement au niveau international, d'avoir des règles pour freiner les capitaux spéculatifs, mais également, je pense que la taxe Tobin est une bonne idée, comme M. George Soros lui-même a dit soutenir. C'était une surprise, une agréable surprise de notre part. Mais reste à démontrer jusqu'à quel point il est sincère dans son affirmation. Donc une taxe Tobin pourrait contribuer à arrêter la spéculation des capitaux financiers et spéculatifs. Bon. La deuxième chose, c'est au niveau de la répartition des richesses mondiales. Je pense que le marché a un rôle à jouer. Mais également, il y a un minimum de solidarité humaine qui doit prévaloir dans des sociétés civilisées. Et nous pensons qu'il y a un minimum de revenus social qui doit être institué par les Nations Unies et reconnu par tous les États, et qu'aucun citoyen ne doit être laissé dans la rue, qu'il doit bénéficier d'un minimum de protection, d'un minimum de revenus, d'un minimum de protection sociale qui lui permette de faire face à des besoins élémentaires. Cela est possible parce que les richesses existent. Et nous pensons qu'entre le Nord et le Sud, il faut revoir les règles du commerce international au niveau de l'OMC. Il y a certaines règles qui sont au détriment des pays du Sud. Et là, tous les pays du Sud, même ceux qui sont un peu plus développés comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud et comme l'Inde, ont reconnu que ces règles sont à notre détriment. Et je pense qu'il y a encore temps de rectifier ces règles pour qu'elles tiennent compte des intérêts des pays du Sud. Et même au niveau de l'OMC, ils disent que oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, il faut qu'on rectifie. Et en plus, il y a des engagements que les pays du Nord, notamment les États-Unis, les pays du G7, avaient pris pour ouvrir leur marché aux produits des pays du Sud. Mais ils n'ont pas tenu ces engagements. Ils continuent à pratiquer le protectionnisme tout en dénonçant les autres. Et nous pensons que s'ils ouvraient leur marché normalement à nos produits, nous pourrions avoir des revenus qui nous permettraient au moins non seulement de payer notre dette, mais de pouvoir investir dans nos économies. Je pense que donc voilà un ensemble de mesures immédiates que les gens pourraient prendre et qui pourraient aider un peu à reverser cette globalisation, le côté négatif de la mondialisation. Et à plus long terme, je pense qu'il faut un autre paradigme de développement qui prenne en compte l'être humain et non seulement l'accumulation des richesses. Parce que tant qu'on ne prend pas en compte l'être humain, on dit le marché produisait pour accumuler davantage pour les uns et des milliards sur la chaussée, je pense que le monde court vers la catastrophe. Il faut un autre paradigme qui prenne en compte les intérêts de l'être humain, un paradigme où la production sera au service de l'être humain et non au service de l'accumulation du capital. Je pense qu'il y a, à mon avis, plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de l'opinion mondiale. Je pense que l'opinion mondiale est de plus en plus sensible à la question de la pauvreté dans le monde, y compris dans vos pays où des organisations non gouvernementales, des institutions, des parlementaires dénoncent les inégalités qui existent et disent qu'il faut que nous changions de relation entre le Nord et le Sud. Je pense que cette opinion doit être renforcée. Et c'est possible par des actions de ce genre où les gens se rencontrent, discutent et arrivent à un niveau de débat qui permette d'aller ensemble dans la même direction. Et je pense que ça, c'est un niveau qui permettrait aux politiciens qui prennent les décisions dans les pays du Nord à revoir leur politique et à se dire il faut qu'on fasse une marche arrière parce que ces politiques mènent à la catastrophe et il faut explorer d'autres politiques. Le deuxième niveau, c'est les ONG. Elles ont un rôle à jouer. Elles sont une force de proposition. Ce n'est pas seulement une force de protestation, mais une force de proposition. Vous avez vu ici le nombre d'ONG qui sont présentes dans ce pays. Le niveau des débats qu'il y a ici. Nous ne sommes pas venus ici seulement pour protester. Nous sommes venus pour proposer. Nous sommes venus pour discuter calmement entre gens intelligents et responsables. Nous savons que nous ne pouvons pas tout obtenir tout de suite. Mais il y a des choses qui sont possibles tout de suite. Et c'est ces choses-là que nous voulons faire connaître au monde. Et je pense que les ONG, en renforçant leur solidarité, en renforçant leurs actions, peuvent être une masse critique pour peser sur les décisions des dirigeants de ce monde. Maintenant, au niveau de chaque pays, notamment les pays du Sud, il y a les forces sociales, les syndicats, les femmes, les ONG, les artistes, les écrivains qui doivent s'organiser pour peser sur les décisions de leur gouvernement afin que ces gouvernements tiennent compte des intérêts de leur peuple et qu'ils fassent connaître ce point de vue au niveau de leurs relations avec les pays développés. Et je pense que cela est possible. Et au niveau des Nations Unies, il y a également une action qui est possible, c'est d'amener l'Assemblée générale des Nations Unies à prendre des résolutions vis-à-vis des dirigeants du G7, vis-à-vis des institutions financières internationales pour demander d'autres politiques qui prennent en compte les intérêts des pays du Sud, les intérêts de l'humanité. Parce que la paix de l'humanité dépend d'un minimum de redistribution des richesses, d'un minimum de justice sociale et économique. Et je pense que toutes ces actions, ensemble, peuvent mener à des changements de politique.
Donc il faut un changement, ou on peut atteindre un changement par la création de mobilisation sur le niveau estatal, des nations, mais aussi sur le niveau global. Avoir des mouvements sociaux, économiques, peut-être aussi politiques, surtout au niveau global.
Oui, parce que vous savez, certains disent réfléchissons localement et agissons globalement. Parce que comme on dit aujourd'hui, tout est connecté à tout. Et il est évident que nous au Sud, si nous voulons que notre lutte soit efficace et réussisse, nous avons besoin de la solidarité des mouvements du Nord. Et nous avons un slogan qui dit à la globalisation des multinationales, opposons la globalisation des luttes et des résistances, la globalisation des alternatives. Et je pense que le sommet de Porto Alegre, c'est ça, c'est la réalisation de cette idée, la globalisation des résistances à travers le monde. Et je pense qu'il y a entre 10, il y en a qui disent il y a 13 000 personnes qui sont présentes à ce forum, dit jamais vu. Et toutes ces personnes sont venues pour une seule idée, la lutte pour la justice sociale, la lutte pour un meilleur monde. Et je pense que c'est cette idée qui va faire son chemin dans les années à venir, parce que vous au Nord, nous au Sud, nous partageons des choses fondamentales. C'est le droit à la vie, c'est le droit à la liberté, c'est le droit à l'éducation, c'est le droit à la santé. Et je pense que si nous tous nous comprenons cela, nous serons d'accord qu'il faut qu'il y ait un mouvement mondial pour changer l'état du monde, parce que c'est un état catastrophique. Bon, disons la globalisation du pouvoir politique, les gens en parlent. Il est évident que ça va être très difficile de globaliser le pouvoir politique, parce que les gens ne parlent pas, n'utilisent pas, les concepts ne recouvrent pas les mêmes réalités. Bon, ceux qui parlent de globalisation au niveau politique, comme quand on est aux États-Unis, ça veut dire laisser les affaires du monde entre les mains des Américains ou des Américains et de leurs alliés. Bon, nous, ce n'est pas la globalisation politique dont nous rêvons. Nous rêvons d'une globalisation politique dans laquelle les peuples décideront, les peuples influenceront les décisions majeures. Et cela est possible. Comment ? D'abord, je pense que ce genre de rencontre permet à différents partis politiques, à différents mouvements politiques, de venir en contact avec des mouvements sociaux et d'échanger. Par conséquent, d'élaborer des politiques, des stratégies de lutte commune au niveau local et au niveau mondial. Je pense qu'à partir de ce moment, ils peuvent aller au niveau des Nations Unies, parce qu'il y a des institutions qu'on peut encore utiliser. Il y a des institutions où se prennent des décisions politiques au niveau global. Il y a l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a d'autres institutions des Nations Unies où se prennent des décisions au niveau global. Et je pense que ces mouvements peuvent influencer ces décisions. Ils peuvent influencer leur... il y a des leaders politiques qui sont sympathiques à nos revendications, que ce soit en Belgique, en France, aux États-Unis, en Allemagne, ailleurs. Et ces leaders peuvent avoir une grande influence dans les décisions qui sont prises au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, parce que c'est les gouvernements qui sont représentés là-bas. Je pense que la jonction entre ces leaders qui sont sympathiques à nos revendications et des mouvements sociaux du Nord et du Sud, ça peut mener à cette globalisation, à cette politique globale qui pourra amener des changements futurs.